Bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire d'information et de partage d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Marc Landry et j'anime ce podcast avec mon frère de tout le temps, Franck. Comment tu vas, Franck?
Je vais super bien, Landry. Et toi, comment vas-tu?
Oui, je vais super bien aussi. Alors, dis-moi, Franck, qu'est-ce que nous avons menu aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, nous avons, dans ce nouvel épisode, nous avons quelque chose de spécial. Un peu épicé, mais très intéressant. Je vais commencer par te poser une question, Landry.
Allez, vas-y.
Selon, qu'est-ce qui fait bouger le monde? Qu'est-ce qui fait bouger les pays, les puissances et les entreprises?
J'ai deux réponses. La première, je dirais l'économie. Mais si je veux me concentrer sur le contexte actuel, je dirais le coronavirus, le COVID-19.
D'accord. Bon, je te donne un second indice pour t'aider à fixer la réponse.
Ok.
On associe souvent avec le temps. Les Anglais diront « time is money ».
Oh, l'argent.
Bingo. Effectivement, ce qui fait tourner le monde, c'est quoi? L'économie, les finances, l'argent. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un expert dans le domaine de la gestion et de l'intermédiation. Pour le dire de façon plus simple, un expert dans le domaine bancaire. Cet expert que nous avons aujourd'hui a 10 ans d'expérience dans le domaine bancaire en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous allons échanger sur les impacts économiques du COVID-19 sur le monde entier, mais particulièrement sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Bienvenue, Marc Beauclair. Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast et bienvenue.
Ok, je vous remercie. Bonjour Franck, bonjour Marc Landry. Je vous remercie de m'avoir convié au podcast d'Ivoire Talent. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui, comme d'habitude, est tout aussi intéressant et d'actualité. En tout cas, une fois de plus, je tenais à vous remercier pour cette invitation.
C'est nous que te remercions, Marc. Et, mais moi, j'aimerais rapidement qu'on essaie de rentrer dans notre sujet aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce que nous ressentons déjà les effets du COVID-19 sur notre économie ivoirienne, aussi bien au niveau du secteur privé que du secteur public? Si effectivement nous ressentons cet impact-là, quels sont les impacts que nous ressentons déjà?
Oui, tout de suite, je répondrai par l'affirmative. On ressent déjà les effets du COVID sur l'économie ivoirienne en particulier. Rien qu'à voir un peu la circulation et le manque d'embouteillage, ça dénote quand même d'un ralentissement de l'économie. Il y a malheureusement aussi tout un pan de l'activité économique qui est aux arrêts. Si on prend le secteur de la restauration, tous les restaurants malheureusement sont fermés. Celui aussi du loisir avec notamment les boîtes de nuit qui sont fermées. On regarde tous ceux qui font de l'événementiel aussi, c'est à l'arrêt. Mais encore plus généralement, on va voir dans le transport avec les mesures prises par les autorités gouvernementales. On voit qu'il y a une partie du chiffre d'affaires de l'activité du transport, par exemple, dans le transport en commun, on a limité un peu le nombre de personnes dans les cars, on a limité également dans les taxis, etc. Donc, c'est du manque à gagner financier pour ces opérateurs-là. Mais bon, ça se revoit aussi dans tous les autres secteurs, hein, parce que même du côté de l'industrie, de l'offre de production, la productivité des entreprises a beaucoup bougé. Et du côté de la demande aussi, on voit que les consommations a baissé parce que les sociétés qui sont à l'arrêt ne vont plus verser des salaires. Elles ont mis malheureusement d'autres du personnel en chômage technique. Tout ça, c'est un manque à gagner dans la consommation. Et on le ressent, oui, malheureusement, les effets sur les activités. Mais même au-delà, même, on revoit aussi dans les activités bancaires quand même. Parce que une fois que l'activité économique est contractée, c'est le bilan des banques qui se comprime, c'est la hausse des risques qui s'accroît. Toute chose qui va falloir à un certain moment. Bon, on n'a pas encore toutes les estimations, mais on sait que cette activité-là va créer encore, générer d'autres problèmes.
Mmh. Ouais, on voit déjà que le tableau est un peu peint. Avec ce que tu disais tout à l'heure, Marc, la baisse de productivité, la demande qui baisse, le chiffre d'affaires qui baisse pour certains secteurs comme le transport, l'événementiel. Et là, ça m'amène à me poser la question. La question, c'est par rapport à ces difficultés qui sont en train de compresser les business et avoir ces effets négatifs, quelles sont les mesures qui ont été prises par les banques, mais en même temps aussi les mesures qui sont prises par le gouvernement vis-à-vis des banques et vis-à-vis de l'économie pour pouvoir aider à, on va dire, supporter ce coût-là, ces impacts négatifs?
D'accord, pour les banques, déjà plusieurs mesures ont été déjà prises. La BCAO a pris une série de mesures qui visent déjà à augmenter la liquidité des banques pour essayer d'éviter qu'il y ait un arrêt total de l'activité économique. Donc, elle a augmenté un peu le montant qu'elle accordait chaque semaine aux établissements bancaires, qu'elle proposait aux établissements bancaires, elle a augmenté de 340 milliards. Aussi, okay. Elle a essayé d'élargir tous les dispositifs qu'elle avait en place. Par exemple, elle a essayé d'encourager l'utilisation du guichet de refinancement des PME. Elle a encouragé à l'utilisation des moyens électroniques de paiement. Elle a sensibilisé quand même aussi les banques à trouver des moratoires, des sortes de moratoires, si vous voulez, avec leurs clients. Parce qu'à cause des difficultés, on a dit, par exemple, si vous devez payer cette échéance aujourd'hui, vous pouvez la reporter dans 3 mois, etc., etc. Un tas de mesures qui permettent quand même de continuer l'activité économique. Donc, elle aide les banques avec toute cette batterie de mesures-là pour essayer de continuer à financer l'activité économique et puis à permettre aux sociétés, aux clients, à leurs clients de ne pas s'essouffler aussi durant cette période où il y a un ralentissement économique et ils ont un peu d'argent. Maintenant, du côté de l'État, l'État aussi également a pris plusieurs mesures. Plusieurs mesures, on parle de 1 700 milliards qui ont été mis sur la table, qui seront à travers différents mécanismes. D'abord, au titre des entreprises, on a créé aussi un moratoire sur le paiement des impôts et taxes, etc., qui permettra aussi de permettre aux entreprises pour ne pas qu'elles soient asphyxiées pendant cette période-là. Il y a un fonds aussi qui a été créé pour le secteur privé d'environ 250 milliards que l'État a mis en place. Pour le secteur informel, c'est 100 milliards que l'État a mis en place à travers un autre fonds. Pour le soutien à tout ce qui est production vivrière, maraîchère et fruitière, l'État aussi a mis un fonds de soutien de 50 milliards en place. Et maintenant, au-delà même, au plan social et humanitaire, l'État a mis aussi un fonds de 170 milliards pour aider un peu les personnes à faible revenu, les personnes vulnérables. Et enfin, il y a pour les factures d'électricité et d'eau pour les personnes vulnérables, qui va toucher environ 1 million de foyers, quand même, 1 million d'individus défavorisés, où l'État va permettre de leur alléger le paiement des factures. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été prises, non seulement par la Banque centrale, qui va se décliner sur les banques commerciales, mais également par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre quand même de faire face à cette crise sanitaire.
Je vois qu'il y a assez de mesures qui sont prises pour permettre à tout le monde de pouvoir faire face à cette crise sanitaire qui se transforme ou bien qui s'est déjà transformée en crise économique. Mais moi, j'aimerais savoir, quelles sont les mesures, on a déjà parlé des mesures prises par le gouvernement, c'est vrai, mais est-ce que le gouvernement devrait prendre d'autres mesures encore pour aider, pour vous aider, vous qui êtes du secteur privé, à mieux amortir la crise? Est-ce que les mesures prises déjà sont suffisantes? Est-ce qu'il devrait avoir des mesures complémentaires pour pouvoir vous aider à amortir la crise?
Oui, bon, il pourrait toujours avoir des mesures complémentaires, on dira ça ainsi, parce que tout le monde veut en avoir plus. Mais il faut déjà encourager et féliciter les mesures prises par le gouvernement et même par la Banque centrale, qui pour moi sont des mesures inédites quand même. On est face à une crise inédite, il y a des mesures vraiment inédites et innovantes qui ont été prises, qui sont vraiment de l'ordre à quand même aider les acteurs du secteur privé comme public même dans cette période difficile-là. Et puis, il ne faut pas oublier que nous sommes quand même un pays économiquement en voie de développement, on va dire. Donc, ces efforts-là, 1 700 milliards sur un budget de l'État du Côte d'Ivoire qui est environ de 6 000, 7 000 milliards, vous voyez que c'est déjà un effort consistant. Maintenant, le reste des efforts va venir des privés eux-mêmes, de toutes ces entreprises-là. Il faut, au-delà même de l'argent, c'est un mindset à mettre en place. Il faut essayer de voir comment essayer de trouver des opportunités pour pouvoir se relancer rapidement quand le retour reviendra. Et je pense que c'est vers ces mesures-là maintenant qu'il faut essayer de voir. Il faut essayer de voir chacun un peu à son niveau, de voir comment est-ce qu'il pourrait essayer de surmonter cette crise-là pour continuer et pour aller de l'avant. Voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il faudrait voir.
Oh, ok, je vois. Mais moi, je constate aussi que, voilà, il y a certes le secteur privé, mais il y a aussi les familles qui sont aussi impactées. Par exemple, je vais prendre un exemple d'une famille où le monsieur, il a perdu son emploi, sa femme aussi a perdu son emploi parce qu'ils sont des secteurs qui sont fortement touchés par cette pandémie. Ils ont été peut-être mis au chômage technique. Donc, est-ce que l'État devrait essayer d'envoyer des chèques ou bien essayer d'envoyer de l'argent à ces familles-là pour que ces familles-là puissent essayer de pouvoir survivre dans cette crise-là?
D'accord, belle question, mais bon, Le gouvernement nous a annoncé le fonds de solidarité de 170 milliards, comme je le disais précédemment. On ne sait pas encore comment il va se décliner, si ça sera... Mais je ne crois pas que ce soit aussi comme l'exemple que tu nous présentes. Parce que déjà, il y a d'autres façons aussi d'aider ces populations-là. Non seulement en leur allégeant les charges. Donc déjà, sur le moratoire sur les factures d'électricité et d'eau, c'est déjà d'allègement de charges. On les aide aussi. Bon, l'État a invité les propriétaires immobiliers afin de trouver des voies et moyens pour pouvoir soulager un peu les locataires. Donc voilà, il y a plusieurs façons aussi d'aider les populations. On voit tous les jours à la télé les distributions de dons. Bon, voilà, il y a peut-être, ça sera peut-être pas des chèques posés sur la table directement, mais ça sera aussi tout un mécanisme d'affecter tout l'écosystème qui permettra à ces familles-là de quand même pouvoir tenir le coup. Mais au-delà de tout ça, l'État essaie, avec toutes les mesures qu'elle a prises, notamment même pour l'informel, de ne pas tuer quand même le marché de l'emploi. Donc, ils essaieront autant que faire se peut d'aider ces sociétés-là pour ne pas qu'elles détruisent ces emplois-là pendant la période. Ils vont injecter un peu dans l'informel plus de 100 milliards. Tout ça, c'est pour aider les entreprises à ne pas casser le marché de l'emploi et à ne pas casser la consommation. Donc voilà, c'est plutôt de façon indirecte, je pense, que ça soit de façon directe à distribuer des chèques. Quand on connaît dans nos pays où il y a beaucoup de fraude, où les gens essaieront toujours de trouver des voies et moyens pour contourner les trucs. Je pense plutôt que ces mesures indirectes-là sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre que des accompagnements directs.
Exactement, beaucoup plus adaptés à notre écosystème. Oui, oui, c'est clair.
C'est ça, effectivement, parce qu'il faut prendre en compte l'écosystème. Et toujours dans la même lancée de cet écosystème-là, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire et quasiment dans tous les pays, il y a des secteurs qui sont frappés de plein fouet. Si bien que ils sont fermés. On avait parlé tout à l'heure de l'événementiel. On a parlé également de la restauration. On pourrait même rajouter même, je pense, l'aviation peut-être, puisque les frontières sont fermées. Mais la question qui me vient à l'esprit, l'hôtellerie aussi, qui est impactée fortement. Du coup, la question qui me vient à l'esprit, Marc, je me demande, est-ce que la crise a mis en lumière des secteurs qui ne sont pas en griffe résilients? Parce que lorsque on voit en face de ces secteurs, il y a d'autres secteurs qui continuent de fonctionner, comme par exemple les télécommunications ou bien
les banques.
Bon, les banques même fonctionnent toujours. Donc, est-ce que on peut dire que cette crise-là met en lumière certains secteurs qui sont sensibles aux crises ou bien qui manquent un peu de résilience?
D'accord. Moi, je ne dirais pas ainsi parce que, par exemple, quand on donne la restauration, C'est pas par manque de résilience, c'est pas un décret. On a dit non, arrêtez. Donc, les secteurs de fois en difficulté, c'est pas par manque de résilience parce qu'on est dans un monde où l'être humain a la capacité de s'adapter. Ils auraient peut-être pu, au lieu de fermer le restaurant, faire des livraisons, voilà. Donc, l'être humain a une capacité de s'adapter. La crise ne montre pas des secteurs un secteur plus résilient que d'autres, parce que ça dépend des crises. Aujourd'hui, on va dire que la santé pharma est très résiliente. Non. C'est vrai qu'elle donne beaucoup, elle produit beaucoup plus parce que les gens, ils en ont besoin, mais c'est parce que c'est une crise sanitaire. Ça aurait été une crise d'une autre envergure que le secteur de la santé pharma serait peut-être beaucoup plus impacté. Donc, aujourd'hui, cette crise-là ne montre pas plus ou moins des secteurs plus résilients que d'autres. Cette crise-là nous montre plus ou moins que tout le monde peut être touché en fonction de la crise qui est en face. Cette crise-là nous montre une dimension de l'économie qui peut affecter tout le monde, au fait. Parce que même aujourd'hui, on dit que l'industrie ou la grande consommation, parce que tout le monde s'est jeté dans les supermarchés pour faire des provisions et tout, la grande consommation paraît comme celle qui tient le plus, mais jusqu'à quand? Peut-être qu'à un certain moment, les stocks seront terminés, peut-être qu'à un certain moment... Parce que malheureusement, peut-être que le fournisseur qui était, je ne sais pas, à l'étranger, lui aussi coupé sa production, etc. etc. Cette crise-là, elle est un peu différente des autres crises. Parce que c'est une crise différente, par exemple, des crises économiques qu'on a connues les pays occidentaux dans la période 2008-2010. C'est assez différent. Voilà, exactement. Donc, c'est un peu différent parce que ça impacte, on va dire, tout. En même temps, mais bon, tout ce qui est, je veux dire, physiologique continue de tourner. Les gens ont toujours besoin d'acheter du riz, etc. Donc la grande distribution continue de tourner. Mais on ne sait pas jusqu'à quand, parce que si on va dans la durée, peut-être que tous ces secteurs-là même seront affectés. Peut-être que si on va dans la durée,
Exactement.
même les télécoms dont on parle aujourd'hui peuvent être affectés parce que le mec n'a plus d'argent pour se payer des recharges. Voilà, ça dépend de la durée. Aujourd'hui, on a remarqué que cette crise-là, ce n'est pas une crise classique comme toutes les autres. C'est vraiment comme je dis, on n'était pas habitué, on n'a jamais vu dans le monde un arrêt de production aussi brutal. Donc, pour l'instant, on ne pourra pas dire que certains sont plus résilients que d'autres. On va dire que certains en ce moment ont plus de chance. La santé pharma aujourd'hui, bon, voilà, tout le monde cherche les médicaments, tout le monde cherche. Donc, eux, ça continue de marcher. La production de masques, de cache-nez et autres, eux, ça continue de marcher. Mais c'est dû à la crise, à la nature de la crise, plutôt qu'à la résilience de leur secteur.
Ah ouais, ça c'est vraiment plus clair. C'est vraiment plus clair pour moi. Mais tout à l'heure, tu as parlé également par rapport à la consommation, tu as parlé des importations et tout. Est-ce que les mesures qui sont prises par notre gouvernement, mais les mesures également qui sont prises par les autres gouvernements face à cette situation-là, est-ce que ça n'aura pas aussi un impact sur notre capacité à importer? Ou bien est-ce qu'aujourd'hui, on a réussi quand même à préserver ce genre de transactions malgré la crise sanitaire?
Oui, quand les autorités ont fermé, par exemple, les frontières, elles ont fermé pour les circulations humaines, pas pour la marchandise. Donc, jusqu'à présent, encore, il y a les entrées, des importations comme d'exportations de marchandises. Mais si on va plus loin, au fait, tout va dépendre de l'étendue de la crise. Parce que, comme on le dit, si la crise continue à aller, bon, Dieu merci, en ce moment, on sent que les choses vont mieux. Il y a quand même un ralentissement des nombres de cas. Voilà, de cas malades détectés. Donc, je pense que ça va de mieux en mieux. On espère tous. Mais si on rentre dans une crise beaucoup plus difficile, beaucoup plus dure, le transporteur du camion, il peut être malade, il n'aura pas envie de transporter la marchandise. Celui même qui produit la marchandise, l'agriculteur, par exemple, qui fait du riz, qui peut avoir peur qu'il ne va pas sortir pour faire son riz, etc. Donc, en fonction de la dureté de la crise, comme je dis, ça peut changer un peu significativement tout le commerce international. Il y a, par exemple, aujourd'hui, quand on regarde dans le commerce international, les cache-nez, c'est devenu quelque chose d'incontrôlable. Par exemple, la Chine qui produit au pied de l'avion, elle peut revendre la production, la marchandise qui est là au mieux au fond. Ouais. Donc, ça change un peu les paradigmes de commerce international. Donc, tout va dépendre un peu comme je dis encore, de la dureté de cette crise-là. On espère tous qu'elle va finir par se stabiliser assez rapidement parce que si on reste plus longtemps dans la crise, ça sera beaucoup plus difficile. Parce que même la compensation que les États sont en train de mettre en place, tous ces montants-là vont risquer de ne pas être très efficaces. Et
C'est clair.
malheureusement, voilà, ça. On espère tous vraiment que nos scientifiques, nos médecins qui font un travail formidable en ce moment, pourront trouver des solutions qui nous permettront d'assez rapidement revenir encore à la normale. Parce qu'il faut pouvoir produire, je ne sais pas, dans les sociétés, avec le couvre-feu par exemple, les heures de production ont dû changer. Peut-être quelqu'un
C'est
qui
clair.
produisait 24 heures sur 24 parce qu'il avait des équipes qui étaient en rotation. Bon, voilà. Donc, tout va dépendre encore comme je dis encore, de la dureté, de la longueur, de la durée aussi que la crise va mettre. Mais bon, les choses vont dans le bon sens et puis j'espère que assez rapidement, en tout cas à la fin de ce premier semestre, on espère tous que tout sera fini pour pouvoir commencer dans le deuxième semestre assez rapidement à reprendre la production.
Ce qui est bien dit, ce qui est clair. On espère que tout va rentrer dans la norme parce qu'actuellement nous sommes dans une nouvelle norme qui ne nous convient pas tellement. Bon, moi
Ah oui.
j'aimerais juste savoir quelles sont les prévisions relativement à l'après-Covid-19. C'est-à-dire, pouvons-nous déjà faire des projections? Allons-nous rentrer en récession comme on l'a connu des années auparavant? Quelles projections pouvons-nous faire sur nos différentes économies? Principalement les économies, l'économie ivoirienne et ensuite l'économie mondiale. Parce que je crois que s'il y a une crise qui impacte les grandes puissances comme l'Amérique, l'Allemagne et autres, ça va forcément avoir un impact sur les économies africaines. Donc, est-ce que nous avons déjà des prévisions?
Oui, on a des prévisions et plusieurs prévisions ont été faites. Par exemple, l'État de Côte d'Ivoire a, selon ses plans, pensé qu'on aurait une baisse de la croissance, bon, une baisse, un ralentissement, voilà, de la croissance. Au lieu de 7,2 qui était prévu au début, ils pensent qu'on serait dans l'ordre de 3,6 de croissance en 2020. Mais le FMI a fait d'autres projections qui sont un peu différentes. Le FMI, lui, il pense que, ouais, 2020 en Côte d'Ivoire, le taux de croissance sera plus proche de 2,7. 2,7 plutôt, voilà, contre, on va dire, environ 7% en 2019. Mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Le Sénégal aussi aura une baisse de sa croissance. Ils avaient fait environ 5,3 en 2019, mais pour 2020, le FMI estime à environ 3% de croissance. Je pense que le Ghana, c'est pareil aussi, qui aura une croissance estimée à 1,5 cette année au lieu de 6,1 en 2019. Pour la plupart des économies d'Afrique, il y aura un ralentissement. Pour toute l'Afrique subsaharienne, le FMI projette la croissance à vraiment une récession à moins 1,6 en 2020 au lieu de 3, contre 3,1, on va dire, en 2019. Donc, on se rend compte que tous les pays vont connaître ce ralentissement-là de production et c'est normal, hein. Tous les segments sont touchés parce que non seulement, on va dire, la consommation est touchée, mais l'investissement également est touché. On va dire les dépenses publiques sont touchées. Et le pire dans tout ça, c'est que tous les prix des matières premières sur les marchés internationaux sont en train de baisser. Sont en train de baisser. On va dire le pétrole, il a baissé significativement. Donc certains
Exactement.
pays comme le Nigeria, l'Angola, le Gabon, etc., la République du Congo, le Tchad, tout ça, ils auront une croissance forcément négative parce que ils ont des économies qui sont très liées à celui du pétrole. Mais il n'y a pas que le pétrole qui est touché. Toutes les matières premières, à l'exception de l'or, et en ce moment, toutes les matières premières sont impactées. Donc voilà, nos pays qui sont très dépendants des matières premières auront forcément leur économie beaucoup plus impactée que les autres. Même au niveau mondial, hein, on va dire, au niveau mondial aussi, le FMI ne tape pas sur grand-chose, hein. On se dit qu'aux États-Unis, même la croissance sera beaucoup plus en baisse, hein. Le FMI estime à environ une baisse de moins 5, moins 6 de mémoire, de la croissance américaine quand même. C'est quand même pas... Ouais, c'est pas rien. Voilà.
Wow. À entendre les chiffres que Marc vient de nous donner, moi j'ai l'impression qu'on aura deux crises, quoi. On aura la crise Covid, on aura aussi une crise de après Covid. Et donc, ce qui m'emmène à me poser la question,
Alors moi, je
Marc, selon
disais qu'on a
toi.
déjà deux. Ouais, je disais qu'on en a déjà deux crises. On a déjà la crise du Covid et qui est déjà couplée à la crise économique. Parce que quoi qu'on dise, ça fait un mois pratiquement que l'activité économique est au ralenti.
Et en plus, il y aura aussi une crise après le Covid, au moment où il faudra faire redémarrer l'économie. Donc, selon toi, quels sont les conseils? Ou bien quels sont les conseils que tu pourrais donner? Ou bien quel est ton avis, des recommandations qui pourraient aider nos économies, notamment notre pays, à rebondir après cette crise-là?
Oui, après cette crise-là, on va essayer de mettre en place des mesures qui sont mises en général par les États pour réguler la crise. C'est ce qu'on appelle les mesures keynésiennes en général. C'est l'investissement public. Il va falloir tout de suite que les États prennent les choses en main avec beaucoup d'investissements publics pour essayer de booster non seulement la consommation, parce que quand il y a de l'investissement, c'est des entreprises qui travaillent, c'est de l'argent qui sera payer un salaire aux gens pour que les gens recommencent à consommer et tout. Il y a un effet multiplicateur, je veux dire, à travers l'investissement public. Donc, c'est cet investissement-là qu'il va falloir stimuler forcément la demande et même l'offre encore pour pouvoir reprendre assez rapidement. Donc, pour les banques, il va falloir qu'elles continuent à offrir beaucoup plus de liquidités. Elles continuent à offrir beaucoup plus de liquidités un peu pour pouvoir, parce que l'argent, c'est un peu le sang dans une économie qui pourra permettre aussi de booster. Essayer de repartir sur les politiques d'investissement, même que ce soit par les entreprises privées, il va falloir vraiment stimuler au maximum l'économie pour pouvoir juguler assez rapidement cette crise-là. Mais tout va commencer par l'État, les politiques publiques, avec les investissements publics, là. Comme on le dit, ce sont ces mesures keynésiennes-là qui ont fait déjà leur. Qui ont déjà montré leur succès. Après la crise de 29, après la crise même de 2008-2010, là, pas. Donc, il faut que l'État entre en ligne de compte. Il faut que la Banque centrale aussi continue d'injecter des liquidités et de faciliter le refinancement aux banques pour pouvoir continuer à supporter l'économie. Dans ce truc-là, les marchés financiers pourront beaucoup aider aussi. Il faudra que les États se tournent aussi vers les marchés pour avoir ces fonds-là, parce qu'il va falloir financer tous ces investissements-là. Donc, il va falloir que tout le monde se mette un peu la main à la pâte et puis ensemble, on essaie de trouver les voies et moyens pour vite reprendre l'activité économique.
Une petite question au passage, Marc, pour rebondir sur ton intervention. C'est, par exemple, tu as parlé du marché financier. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a la BRVM. Quand on regarde les infos, on voit que on va dire, la météo est un peu grise. Est-ce que après cette crise, tu penses qu'il pourrait avoir un boom? Et s'il y a un boom, est-ce que tu penses qu'il y a des secteurs en particulier qui pourraient connaître un véritable boom à la fin de la crise?
Je vais vous dire tout de suite que, à la différence des autres places boursières, la BFM a montré quand même une certaine résilience. On n'a pas connu les cracks qu'on a connus, qu'ont connu les bourses internationales, où il y a eu des séances, par exemple au Maroc, qui a eu moins 10% de la bourse dans une séance, ou en Occident, on a connu deux fois des moins 20% dans une séance. On n'a pas connu ça. On n'a pas connu ça sur notre bourse. Notre bourse est quand même assez décorrélée des bourses internationales. C'est vrai que certains secteurs, le transport et l'agriculture, sont en forte baisse. C'est vrai. C'est vrai que ça commence à entrer petit à petit dans notre bourse, cette baisse, mais elle reste quand même, notre bourse reste assez résiliente et ça, c'est un grand aspect positif. Il faut dire que notre bourse, particulièrement, est depuis 2016 quand même dans un processus baissier. Donc, je pense que ce processus baissier-là, en train de connaître, encore une fois de plus, on n'a pas de boule de cristal, mais en train de connaître, j'espère en tout cas, c'est plus bas. Donc, on se dit que si toutes les choses reprennent normalement, on se dit aussi également, parce qu'il y a un autre facteur qu'on oublie, c'est qu'en 2020, il y a des incertitudes comparées aux élections en Côte d'Ivoire, même si on pense que tout ira bien. Donc, si tout va bien, on espère en tout cas qu'après ça, il y aura un développement encore de tous ces indices-là qui repartiront à la hausse. On espère en tout cas.
C'est clair. Et bon, là, je comprends que c'est un sujet assez intéressant, c'est un sujet qui te passionne. Je pense qu'il va falloir qu'on te reçoive ici, à nouveau, sur ce podcast, pour parler un peu hors Covid, pour parler un peu de tout ce qui concerne, tout ce qui touche la finance des marchés, tout ce qui touche les bourses et autres. Mais Marc, malheureusement, toute bonne chose ayant une fin, nous sommes à la fin de ce podcast, donc je vais te demander de donner ton mot de fin, et puis nous allons conclure.
Déjà, pour mon mot de fin, je vous remercie encore une fois de m'avoir invité au podcast d'Ivoire Talent, et comme tu l'as dit, je serai avec plaisir que je serai là pour parler d'autres choses hors Covid. En tout cas, ce que j'aimerais dire et le souhait qu'on a tous, c'est que cette crise-là s'arrête assez rapidement pour que les choses reprennent normalement et puis qu'on puisse reprendre là où on l'a laissé. On espère que ça va pas trop, la crise ne va pas trop s'installer pour pouvoir détruire de façon beaucoup plus durablement des emplois et autres, voilà, parce que c'est, il faut pas que ce soit aussi prononcé, parce qu'il y va quand même de la vie de concitoyens, de la vie de personnes vulnérables et autres. On encourage tous ceux qui sont du secteur de la santé pharma, les infirmiers, les médecins, tout le monde qui fait un travail formidable. On encourage aussi les autres, hein, parce que dans d'autres domaines, même les banquiers qui continuent de servir, qui font un travail aussi formidable pour pouvoir continuer de maintenir quand même les choses. Donc, on les salue, on leur témoigne tout notre respect, et puis on va continuer, nous, nos handgriffes, nos prières, pour que tout ça reste assez rapidement, on dira ça comme ça.
C'est la prière de tout le monde. En tout cas, merci bien, et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode aussi palpitant que celui-ci. C'était Marc Landry et Franck pour le podcast Ivoire Talent. N'oubliez pas, vous pouvez laisser vos commentaires en dessous de cet épisode, partager à vos amis. Merci, à bientôt.